France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Pardon, darling. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Yolovi, je l'ai vu. Des 82 gravures que Goya réalise entre 1810 et 1815 pour organiser sa protestation silencieuse, solitaire, obstinée contre les désastres de la guerre, il faudrait pouvoir citer tous les titres. Impossible de regarder ça. Enterrer et se taire. Ça, c'est le pire. Mauvais présage. Personne n'est là pour les secourir. Cela ferait un long poème qui dirait, car autant citer le titre complet, de cette encyclopédie de la violence, les conséquences dramatiques de la sanglante guerre menée en Espagne avec Bonaparte et autres caprices emphatiques en 82 estampes inventées, dessinées et gravées par l'auteur et peintre Francisco de Goya y Lucientes à Madrid. À Madrid, oui, mais aussi partout où la guerre incise les corps, ombre les morts et impose son œuvre au noir. Sauf qu'à y regarder de près, ce qu'on y voit aussi, ce sont des trouées de lumière, ce blanc que ménage Goya en écartant un peu les hachures de la gravure, et ce qu'elles éclairent aussi, cet espoir, cette liberté. Ce sont des personnages de mères, de filles, de femmes. Tenez, un autre titre de ces estampes. Les femmes donnent du courage. Deux femmes viennent nous parler de Goya aujourd'hui, avant d'être rejointes par notre sociétaire du jour, Pierre Saint-Garavellou. L'une est historienne de l'art, Laurence Bertrand d'Orléac, quand l'autre, Léonore de Récondeau, est écrivaine. Dans Goya de père en fille, elle écrit ce qu'elle voyait enfant dans les désastres de la guerre, des photos d'une guerre d'Espagne qui n'était pas celle de mon père, mais qui semblait la même.
On comprend très bien que André Malraux, qui a fait un très bel essai sur Goya, finisse l'essai en disant, à peu près, je ne me rappelle pas les phrases exactes, mais le sens de la phrase était « Ensuite commence la peinture moderne », n'est-ce pas ? Je crois que c'est un tableau, les deux tableaux, mais surtout le tableau des exécutions, des fusillades, le tableau du 3 mai, où on voit ce groupe d'Espagnols éclairés par cette lumière d'une lanterne posée par terre, fusillés par... une rangée de soldats français, mais anonymes, c'est-à-dire que tournés de façon à ce qu'on ne voit pas les visages. Le visage, c'est ceux des vaincus, ceux des suppliciés. Les autres, c'est une force plus anonyme, n'est-ce pas, une force militaire. Et c'est intéressant, d'ailleurs, entre parenthèses, de comparer ce tableau-là avec les massacres de Corée de Picasso. Là, dans cette salle du Prado, on a envie qu'elle se prolonge par la peinture noire et par le Guernica de Picasso.
C'était Georges Semprin dans Une vie, une œuvre, France Culture, 1995. Léonore de Récondeau, bonjour.
Bonjour.
Le violon, c'est l'instrument du voyage, de l'exil, des diasporas. Mmh. Écrivez-vous dans Goya de père en fille, paru chez Verdier dans la collection Les Arts de Lire. Cela tombe bien, comme musicienne, vous jouez du violon et comme écrivaine, vous affrontez l'exil. Le livre dont je parle nous vient avec un autre, son compagnon, Marcher dans tes pas, paru chez l'Iconoclaste, et on y parle de votre père, fuyant Irun et la guerre civile espagnole le 18 août 1936 à l'âge de 4 ans. Et on y parle de vous aussi à 4 ans également dans l'atelier de vos parents quand on vous offre un violon et quand on vous y découvrez les désastres de la guerre de Goya. Et ce qui s'offre à vous alors, c'est un nouveau pays, celui de l'art, seul territoire, dites-vous, d'une liberté totale. En fait, c'est ça aussi que vous écrivez depuis bien longtemps, Léonore de Récondeau, c'est-à-dire l'histoire de ce pays qui est le pays de l'art où on peut éprouver sa liberté.
Absolument, où le langage est universel, où il n'y a pas ces questions de traumatisme de langue et où on fait quelque chose des grandes ruptures et des grandes blessures de la vie.
Bonjour Laurence, Bertrand d'Orléac.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, présidente de la Fondation nationale des sciences politiques, autrice de nombreux et beaux livres sur ce que l'art et la guerre se font mutuellement. Et le dernier, paru chez Gallimard en 2024, parle aussi de la rage de créer et de résister d'une femme, le lion de Rosa Bonheur, et poursuit votre réflexion sur l'écriture de l'histoire de l'art et son rapport à la fiction. Dans la formidable exposition du Louvre-Lens, dont vous fûtes la commissaire en 2014, les désastre de la guerre, vous présentiez, je vous cite, Goya pour toujours. Non seulement celui qui témoigne de son temps, mais celui qui convoque le nôtre en décrivant tous les désastres et en délivrant des vérités éternelles sur la guerre. Pour vous, pas de doute, en fait, c'est là que commence notre aventure moderne.
Enfin, en tout cas, il est certain qu'il se passe quelque chose au moment de ce tournant de ces guerres napoléoniennes, quand Chateaubriand l'écrit, Napoléon tue la guerre en l'exagérant. C'est une guerre aux extrêmes, c'est une guerre de grande consommation, oui. C'est une guerre de masse. On parle toutes les langues dans les armées napoléoniennes, mais cette guerre d'Espagne, qui s'appelle pour les Espagnols la guerre d'indépendance, est une guerre terrible.
Chateaubriand dit d'ailleurs aussi qu'on est au-delà de la gloire, ça veut dire qu'on n'y est plus en fait.
Oui, tout à fait. Lui qui avait tellement cerné Napoléon et qui avait compris ce qu'il pouvait représenter comme soleil pour l'Europe, voit bien évidemment les choses se retourner. Et pour un homme comme Goya, cet homme des Lumières, il faut bien se souvenir que c'était un homme qui croit à la Révolution, qui va donner une forme aux ombres aussi de cette révolution qui tourne à la guerre et à cette arrivée des troupes françaises qui vont véritablement l'obliger à donner une forme aux effets. Non pas à la guerre elle-même, mais aux effets de la guerre sur, en particulier, les populations civiles.
Alors évidemment, on peut dire oui, mais ça... Callot l'a gravé, mais il l'a gravé de loin. Ce qui est tout à fait remarquable, Léonore de Recondo, dans ces images, c'est qu'on y est, c'est qu'on est vraiment nez à nez avec la violence. Dans votre livre de Goya de Père en Fille, vous en regardez particulièrement trois. D'ailleurs, comme dans cette émission, vous ne les reproduisez pas, vous les décrivez. On pourrait commencer par la première, tiens.
Bien sûr. Alors là, j'ai sous mes yeux Madre Infeliz, donc mère infortunée, malheureuse, on pourrait dire. Alors on voit le corps d'une femme, une jeune femme, qui est vêtue en blanc, elle est toute en blanc. Elle est portée par trois hommes, qui ne sont pas des soldats, ils sont plutôt habillés en civil. On voit pas vraiment leur visage, et elle, on voit le sien qui pendant. Elle nous regarde, les yeux fermés. Et au loin, il y a aussi un autre corps gisant de femme. Tout le fond de la gravure est très très sombre, avec comme des petits... picotis de blanc, on pourrait peut-être se dire que c'est une nuit sombre et très étoilée. Et derrière, puisque c'est cette petite fille qui s'exclame « sa mère malheureuse », il y a une enfant qui doit avoir 4-5 ans aussi, qui pleure, qui a les poings sur ses yeux et qui est elle aussi habillée de blanc.
Il y a la fille et la mère en chemise blanche. Il y a aussi d'ailleurs celui qui... est devant nous, qui porte le corps, qui est en blanc. Et puis, il y a ces hommes noirs, en chapeau, derrière, Laurence Bertrand d'Orléac. Et là, effectivement, on est au plus sombre de ce que Goya veut dire des effets de la guerre.
Souvent, chez Goya, il y a cette opposition du clair et du sombre. Alors, on parle de cette série que Léonore a vu, qu'il a tellement marqué, enfin ça m'a frappé dans ce livre à quel point des images peuvent marquer une enfant. La gravure qui va être au fond quelque chose qu'il pratique de façon systématique assez tard, à partir de la cinquantaine, est un art qui lui convient très bien. Parce que il y a tout un jeu d'opposition, disons, qui va exagérer, disons, exaspérer. Et là, c'est très frappant. Et très souvent, donc, il oppose le noir au blanc, Alors, ça ne veut pas dire pour ça que c'est pas ça ne peut pas être inversé. Il n'y a pas de moralisme, si vous voulez, chez Goya. Hein. Mm-hmm. Il voit le monde en noir. C'est-à-dire, c'est pour ça sans doute que Picasso adore Goya. On disait toujours Matisse croyait au paradis et Picasso à l'enfer. Oui, il croit plutôt à l'enfer qu'au paradis, c'est sûr, sur la terre.
Léonore de Lacondo.
Oui, moi, ce que je trouve extraordinaire, et c'est peut-être pour rebondir sur pourquoi enfant je suis tellement marquée par ces gravures. Alors, il y a certaines qui sont extrêmement violentes. Celle-là, elle est violente, mais on ne voit pas le geste, on ne voit pas l'acte de violence. On voit cette femme morte qui est portée par des hommes, donc elle est déjà morte. Ce qui m'a le plus troublée, c'est que c'est peut-être la modernité dont parle Semprin, c'est qu'on peut... On peut dater, il y a évidemment une technique qui est la gravure, il y a des habits que porte cette femme et ses civils qu'on pourrait dater, mais la puissance évocatrice de ce geste de cet enfant, la tristesse de cet enfant. Moi, quand je regarde cette gravure, j'ai l'âge de cette petite fille, on va dire.
Vous avez 4 ans.
J'ai 4 ans.
C'est dans l'atelier de
mon père, qui lui-même grave pendant ces années-là des gravures autour des désastres, enfin en tout cas des prisons de franquistes. Et je me reconnais immédiatement dans la petite fille. Et c'est cette intemporalité là, je pense, qui arrive jusqu'à moi alors que je ne connais ni Goya, ni le 19e siècle et ni les techniques de la gravure.
Votre père, il était au micro de France 2 de Michel Lancelot en 1981. C'était l'émission Peintre de notre temps. Écoutez.
Quels ont été tes premiers appuis, tes premières influences, ceux qui t'ont aidé à construire ce monde qui est le tien ? Je parle en peinture, bien entendu.
Avant même de commencer à peindre, il y a quand même toute cette peinture de Goya, tous les Flamands, les Espagnols, Magnasco, puis enfin tous les expressionnistes allemands, les Dix, puis Bellemare, et puis beaucoup d'autres choses. Quoi. Toute une certaine transformation du dessin, du terrible, de l'érotisme, du sensuel plutôt que de l'érotisme. Toute une série de choses qui m'ont donné l'impression, je m'en rends compte maintenant, que petit à petit, on pouvait passer de quelque chose de sec, comme un dessin de belle-mère qui est tout fait en épure dessinée, à quelque chose d'extrêmement mou et que ça pouvait rester très sensuel. C'est pourquoi maintenant, pour moi, une personne qui coule est quelque chose qui peut être très érotique, très sensuel.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Dans votre livre Goya de père en fille, Léonore de Lacondo, vous parlez de ces gravures de Goya que vous découvrez à l'âge de 4 ans, l'âge où votre père part d'Irun, mais vous ne les reproduisez pas dans le livre. Il y a une seule image, c'est celle justement d'une gravure de votre père qui s'appelle Prison.
Oui, c'est vrai, c'est un choix qu'on avait fait avec la maison d'édition Verdier, puisque en fait ce livre est la retranscription d'une conférence que j'ai faite pendant un festival et que je disais ces gravures. Donc celle qui a été reproduite, c'est une gravure que j'ai maintenant à nouveau sous les yeux avec vous, qui date de 1972, donc qui est la prison numéro 4. Ça s'appelle prison parce que ce sont des cases qui sont les unes à côté des autres posées, donc gravées sur des petits carrés de cuivre où mon père, dans chaque carré, il y en a une vingtaine, je pense, dans chaque carré va illustrer les prisons franquistes. Donc on est en 72, à la fin de la dictature franquiste, et quand moi-même, quelques années plus tard, je vais découvrir Goya et les désastres de la guerre, lui sera en train de travailler sur cette autre guerre d'Espagne, la guerre civile.
Graver, résister, Laurence Bertrand d'Orléac, c'est bien cette question-là qui nous occupe, parce que, rappelons tout de même que cet effort que fait Goya, parce qu'il ne dessine pas, il grave, c'est quand même un engagement physique et technique, il le fait pour lui. Il le fait pour lui seul, c'est-à-dire que sa vie durant cet album sera pour lui, et on ne le connaîtra que bien après, c'est son fils qui va le rendre public.
Mais pour cause, hein. C'est-à-dire qu'il lui est arrivé quand même déjà d'être censuré. Mmh. Goya, il sait évidemment la difficulté de passer d'un monde à l'autre, du monde de l'officialité, de son état de peintre du roi, à celui de peintre résistant qu'il est. Fondamentalement, c'est un artiste de la résistance. À la fois de la résistance contre les pouvoirs, mais aussi de la résistance contre ses propres démons. Enfin,
oui, parce qu'en plus, politiquement, c'est pas simple. En 1814, il y a la Restauration, on peut pas dire non plus que ça soit formidable. Et Goya, ne vise pas seulement Napoléon, il vise la guerre elle-même.
Absolument. Je crois que son grand combat, au fond, c'est un combat contre la violence, en réalité, et contre la tyrannie aussi. Contre la tyrannie politique, contre la tyrannie de l'Église. C'est un croyant, Goya. Oui. C'est un homme des Lumières qui se combat contre des raisons et des effets, disons. Mais c'est aussi quelqu'un qui combat contre son propre camp à certains moments, contre sa propre classe, sa propre caste, pour ce qui est il y a tout un combat contre les prêtres,
oui,
qui est très frappant tout au long de son existence.
Sur cette question, écoutons Eugenio d'Ors, le grand écrivain espagnol. C'est un texte qui est lu par Roland Topor et puis un autre qui est lu par Pierre Descargues. C'était dans le feuilleton de France Culture, La vie de Goya, en 1987.
Il me semble qu'elle n'a presque pas d'importance, la question de l'impartialité de Goya quant au rôle qu'il prête, dans le cadre de la tragédie, aux Français et aux Espagnols. Indubitablement, sa position de contemplateur dans cette affaire est semblable à celle du citoyen qui voit dans sa propre ville et entre ses compatriotes surgir et se poursuivre une révolution. Et une révolution face à laquelle le contemplateur ne prend nullement parti. Je m'exprime mal. En l'occurrence, on aperçoit bien Goya prendre parti, mais ni contre les Français, ni contre les Espagnols, contre la guerre elle-même et sa stupidité outrecuidante.
Eugenio d'Ors raisonne en historien. Goya n'est pas neutre. Au contraire, il s'engage. Il s'engage pour l'homme qui va jusqu'à tuer, comme il s'engage pour celui qui est tué. Il montre ce qui arrive quand la raison est en sommeil. Elle n'engendre pas seulement des monstres en dehors de l'homme. Elle éveille les monstres en eux-mêmes. Goya est le premier en ce domaine. Il montre les massacreurs et les massacrés ensemble. Et il est le seul à faire cela. Voyez les tableaux du baron Gros. Gros sera le peintre par excellence de l'épopée napoléonienne. À Madrid, Gros et Goya se suivent sur le terrain. Goya a montré l'assaut des chevaux et des sabreurs par le peuple. Cela n'a rien d'intéressant pour les techniciens de l'art militaire. C'est un tourbillon de coups de poignard et de coups de sabre. On ne voit même pas qui est officier, qui est sous-officier, qui est simple cavalier. Dans l'autre tableau, la fusillade, ce sont des soldats en peloton qui tirent sur des hommes à genoux. On n'est même pas sûr que Goya ait représenté fidèlement l'uniforme des grenadiers de Murat. Ça s'est passé en mai 1808.
Gros, Goya et Géricault aussi, puisque c'était vraiment avec Goya et Géricault que les désastres de la guerre, dont vous fûtes la commissaire, Laurence Bertrand d'Orléac, votre exposition au Louvre-Lens, désignait finalement ce regard moderne sur la guerre.
Oui, il y en a un, donc, nous l'avons dit, qui forge l'image des populations civiles pour la première fois en histoire de l'art, et l'autre, Géricault, qui forge l'image de l'officier anonyme perdu dans la bataille et qui souffre. Le sentiment de l'officier anonyme sur grand format. Et ça, c'est la première fois ici. Ce sont deux artistes qui font basculer, en effet, l'art du côté de la modernité et d'une, encore une fois, d'une critique aussi de ce que peut être justement l'époque moderne, mais du cœur même des modernes. Enfin, sont pas des réactionnaires, ce sont des observateurs attentifs qui veulent montrer autre chose que la guerre héroïque, oui. et les éperons et les détails.
Les boutons de guêtre, oui. Voilà. Léonore de Récondo, on a parlé de cette scène qui est au cœur de votre livre, Goya de père en fille. Vous découvrez ces gravures dans l'atelier de votre père et trois vous frappent particulièrement. La première, vous en l'avez décrite, et puis les deux suivantes, elles se suivent elles-mêmes. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler ?
Bien sûr. Alors, les deux suivantes qui s'intitulent, la première, La vérité est morte, Murió la verdad, et la deuxième, Est-ce qu'elle va ressusciter ? Si ressuscitará, avec un point d'interrogation. Donc, je les ai choisies parce qu'en fait, en regardant comme ça, on a l'impression que cette femme... Alors, c'est une femme, d'abord, la vérité est morte. C'est une femme qui est allongée, qui ressemble à la première, dont on a parlé, qui est cette mère, en tout cas, qui est cette femme, la femme, disons, dans la guerre, et qui, là, représente la vérité. Elle est donc morte, elle est entourée d'un groupe. Dans ce groupe, on voit un ecclésiastique. Comme vous le disiez, Laurence, il a été quand même très très contre l'Église, même si c'était quand même un peintre de cour aussi. On voit des capuches, beaucoup de gens, tout un groupe de personnes qui tentent de regarder cette vérité, mais la vérité rayonne, même si elle est morte, il y a quelque chose d'elle qui surgit. Et à nouveau, le corps de la femme est tout à fait blanc. Et ce qui me plaît, ce qui m'a plu aussi en réfléchissant et en revoyant ces gravures, c'est que dans le mode de la gravure, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est cette plaque de gravure qu'on va passer un vernis dessus, et c'est avec une pointe sèche que Goya va venir gratter, enlever certaines zones de vernis. Il va passer de l'acide pour que ça accroche, comme on dit, ça va venir agripper les zones qui sont où le vernis est parti, et c'est pour ça que l'encre va pouvoir prendre, en fait. Donc ça veut dire que toutes les zones qui sont blanches dans les gravures sont des zones qui n'ont pas été où le vernis n'a pas été enlevé. Et ça, je trouve ça très beau, parce que ce blanc, c'est une sorte de blanc qui n'est pas dénudé. Et donc, cette femme est d'abord allongée, elle est morte, elle a ses cheveux comme ça, défaits. Et puis, dans la deuxième, qui est la gravure numéro 80, elle est toujours allongée, mais on voit plutôt son buste. On voit tout autour d'elle ce même groupe qui s'est rapproché, et tout d'un coup, elle a les yeux ouverts. Elle a les yeux ouverts, donc on pourrait croire qu'elle ressuscite, et il utilise quand même le mot ressusciter et pas revivre. Et on espère qu'elle est en vie à nouveau, cette vérité, mais Goya y ajoute un point d'interrogation. Donc ça veut dire qu'il n'est pas très sûr.
Pas sûr du tout, du même, tout, sans doute.
Oui. De cette résurrection.
Mais nous, on n'est pas sûr non plus de ce que ça veut dire, Laurence Bertrand d'Orléac, sinon peut-être que cet homme des Lumières, dont vous parliez tout à l'heure, qui ne renonce pas, au fond, à l'effet de vérité, il se donne tout entier à nous dans ces images.
Oui, je pense que c'est aussi... on a parlé d'un Goya romantique. Il y a dans le romantisme quelque chose d'absolu, c'est-à-dire de l'être. C'est moins, si vous voulez, de représenter les choses que de représenter ce qui se passe entre l'artiste et les choses.
Oui.
Ça change tout.
Bien sûr.
Léonore de Récondo.
Oui, c'est vrai, et c'est ça qui vient toucher tout le monde, et c'est aussi pour ça que moi, quand je les voyais enfants, après, en ayant revu des photos de reporters et des reporters de guerre, des photos en noir et blanc, qu'il y a eu énormément de photos quand même de la guerre d'Espagne et des batailles républicaines contre les franquistes, c'est la même chose. On retrouve cette émotion. En fait, il utilise tout son savoir dans cet esprit de résistance, comme vous le disiez, dans cette œuvre pour lui-même, et on est au cœur de son émotion à lui. Il utilise toute sa technique pour ça, pour nous toucher, nous. Habría más que contar.
Zorongo del Navio, interprété par Marta Almarano. Laurence Bertrand d'Orléac, nous sommes toujours avec Léonore de Recondo sur cette émotion, une émotion d'enfance, avec les 82 gravures du désastre de la guerre. Et on l'a entendu, inévitablement, Goya, Picasso, Capa, d'une guerre d'Espagne, l'autre. Oui, cette question de la matrice de la modernité, au fond, comme historienne de la guerre, qui se pose la question de savoir quel est l'art d'après la guerre, c'est ce qui vous a saisi lors de cette exposition du Louvre-Lens de 2014.
Oui, les artistes dialoguent par-delà la géographie et la chronologie. J'écoutais Recondo tout à l'heure, qui parlait de Dix, par exemple. Et nous avions présenté les Der Krieg de 1924, qui évoque la guerre de 1914-1918 que Dix a fait et qui continue à avoir des cauchemars et donc qui reprend à nouveau frais alors qu'il avait dessiné pendant la guerre même, mais il a besoin pour échapper à ses cauchemars, pour s'enlever de la tête, comme disait Kafka, des choses terribles. Il reprend, il fait une série qui, où, franchement, si on présente certaines gravures de Goya et certaines gravures de Dix, oui, on s'y trompe. Je fais parfois le test, c'est frappant.
Cette exposition, elle a voyagé, et notamment à Bilbao.
Alors, c'est Laronguer, en fait, une autre exposition qui a voyagé à Bilbao, mais c'est le même phénomène, c'est-à-dire que, en effet, ces scènes, finalement, de guerre, semblent être les mêmes, parce que les ruines ressemblent aux ruines, parce que les blessés ressemblent aux blessés, parce qu'un mort ressemble à un mort. Et il est vrai que quand l'exposition Laronguer, donc, a circulé de Paris, du musée d'art moderne de Paris au Guggenheim de Bilbao, j'étais frappée évidemment par la façon dont les Basques qui travaillaient au musée ont repris l'exposition avec une intensité particulière, évidemment, que j'ai très vite saisie. Ils étaient les descendants, en fait, de la Retirada, tout simplement.
Leonardo,
oui, absolument. Dans ce mouvement de la culture basque qui a été longtemps interdit, avec une langue qui a été aussi interdite. Donc je pense qu'aujourd'hui, la culture basque et les Basques revendiquent l'autonomie, si ce n'est l'indépendance, d'abord dans leur culture. Et je fais peut-être une parenthèse pour dire que dans la langue basque, cette langue si difficile, la question de l'identité, on ne dit pas être basque, on dit avoir le basque. Et donc, je peux tellement comprendre comment ils s'approprient des images qui viennent d'ailleurs, mais comme vous le disiez, qui sont toujours les mêmes combats, qui sont toujours les mêmes revendications, qui sont surtout toujours les mêmes victimes aujourd'hui, tellement aujourd'hui et hier. Et c'est pour ça que c'est important, je trouve, de montrer des peintres, comme vous l'avez fait, de montrer comment, dans l'histoire de l'art, toujours, cette question-là de la résistance est tellement importante.
Vos deux livres, Léonore de Récondo, Un marché dans tes pas et Goya de père en fille, évidemment, sont des livres compagnons d'exil. Hein, oui. Cet exil depuis le Pays Basque, mais au-delà, effectivement, de cette histoire, vous en racontez une autre qui est plus universelle, qui est celle de la conquête d'un pays de liberté qui n'a pas d'autre nom que celui de la création artistique.
Oui, c'est peut-être aussi dans la figure de Garcia Lorca qu'on peut, comme Goya, comme l'histoire de Samprin, et puis on entend ces voix d'artistes, bon, on a entendu mon père, mais on entend aussi Topor, enfin, je trouve que c'est tellement important.
Il meurt le même jour, pardon.
Voilà, absolument, ce 18 août 36, quand ma famille part d'Irun et vont être donc déchus de leur nationalité au passage de la frontière, plus au sud, Garcia Lorca dans la nuit du 18 au 19 août va être assassiné, et évidemment la dictature qui arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle assassine la poésie, elle assassine un homosexuel, elle assassine un homme libre, et ça, je pense que c'est très important de le redire aujourd'hui, de le redire tous les jours, que ce sera toujours la liberté d'expression et de pensée qui sera assassinée en premier. Donc il faut la donner à voir, il faut aller y voir, et il faut donner à entendre et à lire.
Mais ce qu'on entend aussi, Laurence Bertrand d'Orléac, dans cet appel de Léonore de Récondo, c'est que il y a un message universel, et que ce que j'esquissais un peu paresseusement de Goya à Picasso reste quand même dans une culture espagnole que vous devez dépayser, vous voulez dépayser. Vous avez parlé d'Autodix, on pourrait même parler, vous l'avez fait, et on pourrait effectivement y venir à présent, d'artistes contemporains, parce que Goya pour toujours, comme vous l'avez écrit, c'est celui qui évidemment convoque notre temps.
Oui, c'est vrai, on peut parler des frères Chapman qui brodent, si je puis dire, autour des désastres de la guerre, mais on peut parler aussi, par exemple, d'un artiste comme Pei Ming, chinois, et qui, pour parler de la catastrophe de Tiananmen en 2008, va reprendre le 13 de mayo, mais va en faire un énorme format, complètement rouge, avec les mêmes intensités, c'est-à-dire cette armée d'hommes anonymes qui tirent sur des combattants qui, eux, ont un visage et sont suréclairés. Il reprend exactement les mêmes, mais c'est simplement une peinture rouge qui dégouline comme des larmes sur le tableau.
Bah écoutez, justement, Yan Pei Meng, puis c'est suivi d'un commentaire de Bernard Marcadet.
Bernard, supprimer lampe et l'homme est devenu lampe. Enlever les montagnes, enlever l'église, le ciel, il est devenu sang. Voilà. Et le cadavre, il est devenu de la lumière. L'ombre du soldat, le tâche, tu sens. Tout est réinterprété, quoi. Je suis très, très content de la peinture. Hein.
Le rapport de Ming à l'histoire est très, 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 très différent de celui de Goya. Et ça, c'est important, comment Ming arrive à transformer, finalement, à ne pas être simplement un peintre de citation. Au fond, quand Ming, de la même manière, peignait un Mao, c'était pas du tout une citation, c'était pas du tout la même manière qu'il avait de peindre que la propagande chinoise. C'est-à-dire, dans les Mao, il y a cette idée que le portrait est aussi bien en train de se défaire que de se faire. Et je trouve que l'idée de la constitution de la peinture, ce qui est très passionnant, je trouve, dans la peinture de Ming, c'est qu'on voit dans ces tableaux toujours l'acte de peindre qui est en train de se faire. Et dans ces tableaux de Goya, on ne sait plus si les cadavres vont venir ou si vraiment ils ont disparu. Donc il y a vraiment un temps très, très particulier qui est typique, qui est très symptomatique de la peinture de Ming.
Refaire Goya. Alors Ming le refait en grand, le refait en rouge, mais le simple fait que justement ça se passe aujourd'hui en change radicalement, Laurence Bertrand d'Orléac, la signification.
Disons que ça réactive en fait les désastres, des guerres napoléoniennes. Mais il connaît très bien, c'est pas un peintre de citation, mais il n'empêche qu'il connaît très bien, comme tout grand artiste, l'histoire de l'art.
Ming.
Oui. Oui, bien sûr, il a été au Louvre, il connaît très bien, il a été au Prado, il a été partout. Comme je crois qu'il y a cette référence, elle est, c'est aussi une manière de se mesurer en fait, monter sur les épaules des géants. Hein, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que c'est pas du tout de la copie, mais c'est ajouter quelque chose et se mesurer à ce qu'il y a de très grand. Donc il y a aussi de l'orgueil chez Ming, mais il y a aussi de la souffrance. France probablement est une façon qu'il a de dire je veux parler de la place Tiananmen, mais je ne veux pas le faire en propagandiste. Mmh. Bien entendu, c'est un artiste et pas un propagandiste.
Léonore de Récondeau, dans votre livre, évidemment, on comprend cette généalogie d'une guerre d'Espagne, l'autre, c'est comme ça qu'on a commencé cette émission, mais on comprend aussi que ce qui trouve son origine dans cette impression d'enfance, cette frayeur aussi, parce que ce sont des monstres, oui. Finalement.
Hein? Oui,
c'est quand même ce livre que vous ouvrez, vous avez 4 ans, dans l'atelier de votre père, c'est le livre des monstres.
Oui, c'est le livre des monstres, et comme je pense que l'enfance aime les monstres aussi, hein, et on a, dans tous les livres qui sont pour enfants, il y a des monstres, on a une sorte de plaisir, comme ça, quand on est enfant, à savoir que les monstres sont dans le livre, et aussi pourquoi? Parce qu'on peut refermer le livre.
Oui.
Et le livre peut retrouver sa place dans la bibliothèque, et ce qui est fabuleux avec les bibliothèques, c'est qu'on peut reprendre ce livre, rouvrir, et être à nouveau avec les monstres. Et donc, on apprivoise les monstres, et c'est une manière de grandir. Et je crois que, en effet, il faut connaître les monstres, il faut connaître le passé monstrueux pour pouvoir en parler et reprendre le flambeau. Et certainement, c'est ce que font tous les artistes, chacun à l'appui de ce qu'ils vivent dans leur vie et des épreuves politiques ou intimes qu'ils traversent. Et avec ce flambeau et cette connaissance, on donne à voir des monstres, mais qui sont aussi une réflexion et le symbole de ce qu'il y a de plus terrible en nous.
Un de vos très beaux livres, Laurence Bertrand d'Orléac, qui s'appelle « Après la guerre ».
Oui, alors moi j'aime beaucoup la définition que vient de donner Léonore du regard de l'enfant. Alors nous sommes restés des enfants, et c'est à ça que servent les œuvres, c'est-à-dire à avoir moins peur. Précisément, c'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est la question du sublime, différent de la beauté. C'est Burke, hein, au XVIIIe siècle, un peu avant Goya, qui dit bien ça, c'est-à-dire qu'on aime voir le terrible, on a besoin de voir le terrible. Ça date d'Aristote.
Hein. Le terrible, on l'a entendu d'ailleurs, c'est un mot de votre père. Hein.
Oui, c'est vrai.
Si on ne le fait pas, c'est la catastrophe. Si on ne peut pas le faire, c'est pour ça que la propagande est une catastrophe. C'est pas du tout parce que c'est de la propagande, c'est tout simplement parce qu'elle ne sert à rien.
Ouais.
Elle ne nous sert pas à vivre, elle ne nous sert pas à ne pas mourir.
Elle ne nous apprend rien.
Non. Et quand vous
même
dites
Napoléon, vous êtes arrivé dans ce studio en disant « J'ai une citation sur Napoléon du tonnerre ». Mais vous ne m'avez pas dit ce que c'était.
Bon, ma réputation est faite, Patrick Boucheron. On va me prendre maintenant pour une napoléonienne. Après la zoophilie, c'est très bien. J'en accepte l'augure. Je vais vous étonner. C'est Napoléon qui parle. Cette malheureuse guerre d'Espagne a été une véritable plaie. La cause première des malheurs de France. J'embarquais fort mal toute cette affaire, je le confesse. L'immoralité dut se montrer par trop patente, l'injustice par trop cynique, et le tout demeure fort vilain, puisque j'ai succombé.
Ah. Ouais. Vous y croyez à la culpabilité du tyran déchu?
En tout cas, je crois à son écrit, et je constate que même lui a compris que quelque chose basculait.
Oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui bascule aussi, c'est notre capacité enfantine à voir les horreurs du monde. Et sur ce point, je crois que Mathieu Pot-Bonneville, qui est directeur du département culture et création du Centre Beaubourg, nous a écrit une carte postale.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
cher Patrick, il fallait que cela arrive. Il n'y aura cette semaine pas de carte postale. En tout cas, pas d'image au verso de ces quelques lignes. Je voudrais ce coup-ci tâcher de dire un mot de ces moments justement où l'on renonce de soi-même à faire image de ce que l'on affronte. Ces moments où le smartphone vous reste dans la poche et se tient quoi ? Où l'on ne songerait même pas à en effleurer l'écran et à lever le bras pour, comme on dit, immortaliser la scène. La mort, justement, demeure l'un de ces motifs qui suspendent l'impulsion photographique, ne serait-ce qu'un très bref instant, suffisamment à mon avis pour que les millions d'images qui contredisent mon propos, qui documentent bel et bien les cadavres, les cercueils, les linceuls et le deuil, que toutes ces images portent la trace discrète de ce suspens dans l'indécision où elles nous placent de savoir comment les regarder. Pour ma part, l'image qui m'est sans doute la plus douloureuse, l'image que je conserve est celle que je n'ai pas prise. En 2014, lors d'un déplacement au Rwanda, pour les 20 ans du génocide des Tutsis, lorsque le petit groupe auquel je prenais part dévia de la route qui le conduisait d'un mémorial à l'autre pour assister à l'ouverture d'une fosse commune. De la grisaille monocorde des vestiges, de la terre retournée qu'encadrait une géométrie de champs de fouilles, des membres épars et de l'affleurement des crânes, de la frise que composaient les mâchoires déposées et classées sur le rebord du trou, de la densité de l'air, de tout cela donc, je conserve une image absente, c'est-à-dire inévitable, au point qu'en parler ici m'embarrasse. Mais justement, d'où vient cet embarras ? Essayons une approche plus légère. Vous vous souvenez de cette image qui circule depuis des années sur Internet ? Mais si un type en complet veston, la mine réjouie, fait face à la caméra un lever de la victoire, penché sur une tombe fraîchement recouverte. Dans son ironie noire et grimaçante, ce cliché de fiction souligne un fait bien réel. Les obsèques demeurent l'un des rares lieux où l'on ne fait pas de selfie. Ou pas encore, ou pas beaucoup. C'est que, autour de la mort, s'organise un jeu de regard qui compromet la possibilité même de l'image. Il y a celui qui ne voit plus, que ses yeux clos privent à jamais d'exercer une quelconque pudeur sous le regard d'autrui. Il y a celui qui le regarde, mais qui se voit et qui se sait par là même vivant ou survivant, dans ce face-à-face d'une dépouille offerte et de son affliction vigilante. Encore là, au sens d'une présence vive, quand la présence de l'autre se ramène à une petite motte d'espace. Il y a ceux qui le voient se voir, et voir le mort, et qui ne toléreraient pas qu'il fasse spectacle de cette confrontation. Il y a encore, parfois, celles et ceux qui pleurent et vis-à-vis desquels le geste photographique apparaîtrait comme un aveu d'impuissance et d'indifférence, et il y a ceux, enfin, qui, si le cliché était pris, le verraient plus tard, ailleurs. S'entrecroisent en bref trop de regards, bien trop de regards pour qu'il y ait une image, et c'est le réseau serré de ces angles de vue et des questions éthiques qu'il pose qui porte à graver la scène dans une mémoire ne se soutenant que d'elle-même. Rare cas où, autour d'une obscurité centrale et muette, on y voit trop pour y rien voir. Mais quand il arrive que des images impraticables soient nécessaires, qu'elles soient requises comme le témoignage face à l'intolérable, alors il faut trouver les voies de surmonter l'impudeur, de s'arracher à l'impossible sans l'arracher de soi. Faire voir qui ne vous voit plus impose, comme l'écrit Georges Didier Huberman, je cite, de « faire en sorte que l'image réfute le dispositif qui veut la rendre irregardable ». Yo, Lovi, écrit Goya au bas de l'un de ses désastres, ce sont six lettres penchées sur un abîme.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender, this I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often, I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi. Ils me disent signe-toi. Mais je n'ai pas peur.
De Léonard Cohen à Pierre Saint-Garvelou, sans transition, serais-je tenté de dire. Vous venez de rentrer dans le studio. Bonjour, Pierre, vous voulez nous parler de quelque chose, peut-être ?
Oui.
De la réception de Goya à l'étranger, j'imagine. Enfin, c'est ce genre de sujet.
Oui, parce que, en effet, on a oublié que la reconnaissance internationale de Goya trouve son origine dans une mission secrète, organisée en 1835 par Louis-Philippe, le roi des Français, qui confie au baron Isidore Taylor le soin d'effectuer le casse du siècle. Il doit profiter du chaos de la guerre carliste pour se rendre en Espagne et acquérir en quelques mois au meilleur prix le maximum de toiles de maîtres ibériques. Pendant un an et demi, sous le prétexte d'écrire un livre, Taylor acquiert 430 tableaux pour la modique somme de 1 300 000 francs auprès de marchands d'art, de peintres, d'aristocrates collectionneurs et de monastères, dans la plus complète illégalité, car plusieurs lois espagnoles depuis 50 ans interdisent l'exportation des œuvres des maîtres décédés. Pourtant, le baron Taylor, comme Louis-Philippe, se présente comme les sauveurs de l'art ibérique, que les Espagnols seraient incapables de conserver. Ils sont mus par la même vision péjorative de l'Espagne, un pays oriental et barbare, peuplé, je cite Taylor, de sarrasins avides de sang, sans âme et sans cœur, qui ne savent qu'assassiner, ruiner et détruire ce que l'homme a élevé de plus noble et de plus sacré. Pour accueillir ce trésor, Louis-Philippe fonde un nouveau musée, la Galerie Espagnole, au sein du...
Oui, ça, on voit bien comment la France a, par tous les moyens, enrichi ses collections, mais Goya dans tout ça.
Eh bien, ce nouveau musée, inauguré en 1838, accueille tous les maîtres de la peinture espagnole en fonction de leur réputation. Ribera, le peintre le plus illustre de cette époque, occupe la première salle. La seconde salle abrite les œuvres très nombreuses de Zurbarán. Dans la troisième, on découvre le peintre des rois, Velázquez, tandis que Murillo et Cano peuplent la quatrième salle. Les autres artistes, considérés comme mineurs, sont exposés dans la cinquième et dernière salle, et parmi eux Goya, dont 7 toiles sont accrochées dans des coins obscurs, selon les mots de Charles Baudelaire. Et 4 toiles, également attribuées au maître aragonais, ne sont pas exposées aux yeux du public. On peut penser que Taylor et les conservateurs du Louvre ont censuré ces toiles, dont l'esthétique et le message politique pouvaient heurter les visiteurs comme le goût du roi des Français. Louis-Philippe, en effet, déteste les caricatures politiques, qu'il interdit par une loi en 1835, et le souverain aurait lui-même mis à l'écart Goya.
Donc si je comprends bien, parce que j'ai pas totalement renoncé à vous comprendre, Pierre Saint-Garvelou, cette première exposition des toiles de Goya hors d'Espagne, et donc une occasion manquée.
Oui, même si Goya jouit déjà en France d'une certaine notoriété pour ses gravures, considérées comme des bizarreries intrigantes. Rares sont les commentaires sur les toiles du fait de leur mauvaise exposition dans la galerie. On critique vivement sa facture qui est tout sauf académique. Ainsi, le journaliste du Charivari écrit Goya était un caricaturiste spirituel mais un peintre fort ordinaire. Mettez Goya dans les cartons, ne le placez pas dans les musées.
Oui.
Toutefois, Goya suscite également quelques enthousiasmes. Jules Michelet, le tout nouveau titulaire de la chaire d'histoire au Collège de France, note dans son journal fin juin 1839 « Aujourd'hui, par exception, j'ai d'abord traversé le musée espagnol. Bizarre, absurde, d'une fantaisie souvent barbare, souvent charmante. Un Goya m'arrête. L'enterrement d'un moine qu'on descend dans un caveau, la scène funèbre éclairée de durs reflets rouges et d'une grande vigueur, d'un grand effet. Ce tableau de Goya, intitulé « L'enterrement d'un moine », a aujourd'hui disparu. »
Enfin, il n'est plus au Louvre, comme la plupart des grands... Maître espagnol, non ?
Oui, parce que le musée espagnol ferme ses portes au bout de 10 ans, le 1er janvier 1849, à la suite de la chute de la monarchie de Juillet quelques mois auparavant. Cette collection est restituée à Louis-Philippe, exilé en Grande-Bretagne, et à ses fils, qui décident de vendre aux enchères l'ensemble des toiles chez Christie's, à Londres, en mai 1853. La collection est alors totalement dispersée, et la moitié de ses œuvres n'ont toujours pas été localisées aujourd'hui. Alors, il est difficile de mesurer l'influence exercée par cette collection sur les artistes français, et notamment sur l'essor du réalisme. On se focalise généralement sur de rares exemples, comme celui d'Edouard Manet, qui, enfant, a visité plusieurs fois la galerie espagnole en compagnie de son oncle, avant de peindre quelques décennies plus tard le balcon, qui s'inspire des maras de Goya. Mais ce qui est plus intéressant, ce sont les milliers d'anonymes qui étudient intensivement ces œuvres espagnoles pendant les 10 années d'ouverture de la galerie. Il s'agit notamment de nombreux copistes, amateurs, étudiants et artistes qui s'appliquent à reproduire les œuvres des maîtres ibériques. Ainsi, à partir des années 1840, ces copies s'exposent un peu partout, dans les églises et dans les musées, contribuant à la diffusion de l'art espagnol en France.
C'est encore un de ces musées fantômes du Louvre dont vous êtes tellement friand, Pierre Saint-Garavelou, merci. Laurence Bertrand d'Orléac, on comprend bien que finalement c'est une erreur, ou en tout cas un appauvrissement, de considérer une généalogie strictement espagnole de Goya, qui ne peut s'entendre et se comprendre que dans un cadre européen et peut-être même mondial. Vous nous avez parlé de Ming.
Oui, je crois qu'il faut voir beaucoup plus largement. Merci pour cette chronique très bien informée. C'est passionnant. J'avoue, j'avais oublié en tout cas le détail de ces opérations. On sait évidemment l'emballement de Baudelaire, de Lacroix, etc. Bref, et tous ces anonymes, vous avez raison, c'est important. En fait, l'art, c'est pas seulement par les artistes, les grands artistes que nous connaissons, qu'ils traversent le temps, mais aussi par cette façon justement d'être imprégné par ce que les artistes voient dans les musées. Encore une fois, ce sont des dialogues avec ces maîtres-là. Pierre va beaucoup plus loin et nous invite évidemment à voir plus large aussi. Mais je crois que Goya, évidemment, ne peut pas rester en Espagne. Enfin, il n'est pas... D'ailleurs, entre parenthèses, au sens strict, je vous rappelle qu'en 1824, il est chassé d'une certaine manière, puisque l'absolutisme fait qu'il quitte l'Espagne pour la France et il meurt à Bordeaux en 1828. Et c'est là qu'il continuera donc à peindre.
Pierre Saint-Gervais.
Oui, nous savons d'ailleurs qu'il visite le Louvre longuement en 1824, grâce au rapport de police, puisque les artistes et les étrangers avaient un accès privilégié au musée à ce moment-là. Et en effet, on sait aussi que cette période bordelaise est très féconde, et qu'il travaille énormément dans une grande liberté au cours de ces 3 années bordelaises.
Léonore de Récondo.
Oui, moi ce que je trouve fascinant, c'est le voyage des œuvres, parce qu'elles passent d'un pays à l'autre, et justement ça vient nourrir que l'imaginaire de tous ces anonymes, et ça nous permet de nous construire avec ces tableaux comme ça qui circulent, et c'est très très beau, c'est très important la circulation des œuvres, parce que ces œuvres ne doivent pas rester seulement dans un seul endroit, il faut qu'elles soient vues, c'est comme ça qu'elles vivent, et nous aussi.
Elles passent d'un pays à l'autre, mais aussi d'un support à l'autre, parce que dans votre livre Goya de père en fille, eh bien vous décrivez le moment où ces images, qui étaient pour vous celles du livre de votre enfance, vous les voyez au musée.
Oui,
Je les vois au musée et la dernière fois que je les ai vus, c'était au musée, parce qu'il y a un musée Goya en France, qui est à Castres, où ils ont l'intégralité de toutes les gravures et notamment des désastres de la guerre. Et donc je suis allée les voir avant d'écrire Goya de père en fille. Et c'est vrai que c'est une telle émotion. Alors évidemment, c'est très important de les voir sur d'autres supports, sur des écrans, c'est pour la connaissance, mais vraiment être devant l'œuvre, il y a quelque chose qui passe vraiment en direct, de sans écran justement, de l'imaginaire du peintre directement à l'imaginaire de celle ou celui qui regarde. Et c'est cette interaction-là qui nous élève, c'est cette interaction-là qui fait grandir quelque chose en nous et qui nous fait mieux comprendre le monde. Et on est traversé de toutes ces temporalités et de tous ces esprits qui nous ont précédés. Et je crois que pour les artistes, c'est comme ça, c'est dans cet endroit-là que ça se passe.
On n'a jamais cessé de les regarder, Laurence Bertrand d'Orléac. Il y a eu des éclipses.
Alors, vous avez fait allusion, les désastres de la guerre, on ne les voit pas pendant 50 ans. Elles sont éditées vraiment 50 ans plus tard. Goya sait très bien qu'elles sont invisibles, enfin inutile d'essayer de les montrer.
Par son fils.
Oui. Et par l'Académie aussi de San Fernando, en fait, qui va s'occuper de les éditer. En réalité, après, il y a non, on peut pas dire qu'il y ait une éclipse. Enfin, il y a certainement des hauts et des bas, et Pierre y a fait allusion, mais en réalité, c'est un artiste qui a toujours été considéré. Simplement, il est considéré pour certaines parties de son œuvre davantage à certains moments que d'autres. Il y a une partie particulièrement sombre, il y en a une qui est plus officielle, qui est plus, même si elle est déroutante. Vous parliez dans votre émission sur Greuze de la faculté, oui, de la faculté de Greuze de peindre le régime de la famille, qui est un régime assez classique, la tendresse, la spontanéité, le naturel, etc. Goya, pour Charles IV, par exemple, fait la même chose. Pas de symbole du pouvoir, etc. Donc, il arrive à innover aussi dans ses portraits dans son, officiels.
Oui, voilà, son rôle de peintre de cour, de peintre officiel.
Exactement. Donc, il ne faut pas forcément opposer un Goya révolutionnaire à un Goya de cour, parce que les choses sont... C'est justement là sa grandeur. Il arrive à représenter la cour de manière nouvelle.
Pierre Saint-Gravelou.
Oui, je crois que Goya ne cesse d'être réactualisé, réinterprété, notamment aussi pour dénoncer des conflits contemporains. Je pense aux frères Chapman, ce sont un peu les enfants terribles du Brit Art à la fin des années 90 et au début des années 2000, qui sont obsédés par les désastres de la guerre de Goya, au point de vouloir à un moment donné en prendre le nom de Goya, et qui réalisent par exemple, alors il y a toute une série d'œuvres inspirées des désastres, mais je pense à aux grandes prouesses contre les morts de 1994, qui s'inspire de la planche 39, grande prouesse avec les morts de Goya, qui représente ces corps mutilés suspendus à un arbre et qui ont suscité une plainte d'un visiteur lors de la première exposition en 1994 dans la galerie londonienne qui les accueillait. Et c'est frappant de voir à quel point, lorsque les policiers arrivent, eh bien les Chapman présentent la gravure originelle de Goya et les policiers abandonnent leur plainte en considérant que cette authenticité historique, comme dit Chapman, l'authenticité historique autorise la création contemporaine.
Ah oui, ça déménage. Breaking Fuel 2023, No Passaran, c'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Léonore de Recondo, Laurence Bertrand d'Orléac et Pierre Saint-Garavelou. Les références de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Jérémy Kaufmann et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.